Francesco Biamonte. Magma.
Concert Moussorski ce soir à Genève, de la noirceur profonde de ses chants et danses de la mort à la drôlerie d'un cycle bien moins célèbre, enfantine, en passant par les tableaux d'une exposition. Le pianiste russe Alexis Golovin et le baryton Benoît Capte auront à arpenter, sinon toutes les Russies, du moins de vastes territoires. Or, Benoît Capte est notre invité aujourd'hui. Crossover, jazzification de répertoire classique, bossa novisation de Requiem, c'est devenu monnaie courante ou presque. L'ensemble Contraste vient de faire paraître un album du genre qui agace quelque peu notre Agnès éveillée. Agacement qu'elle partage sainement avec nous sur les ondes, Dieu merci, pas toujours consensuelles, de Magma. Monument, enfin, avec Charles Dutoit, dont nous parlera Paul-André Demière. Monument au pluriel, donc, à l'occasion de la venue à Montreux du Philharmonique de Londres qui s'est lancé sous la baguette de Charles Dutoit pour 3 concerts au Stravinsky. Et pour commencer, quel plaisir, Benoît Capte, de vous accueillir. Bonjour.
Bonjour.
Ce soir, vous êtes donc en concert à la Place Neuve, au Conservatoire, concert Moussorski avec Alexis Golovin au piano. On vous écoute tout de suite dans ce répertoire. Extrait du 4e des chants et danses de la mort de Modeste Moussorski, Benoît Capte. Ce soir donc au Conservatoire de Genève, la salle en face de l'Opéra, Place Neuve, à 19h30. Vous donnez une intégrale des cycles Moussorski, pourrait-on dire?
On peut le dire, il y a 3 cycles effectivement pour voix et piano composés par Moussorski. Donc sous forme de cycle, il y a beaucoup d'autres mélodies composées
bien
séparément,
sûr.
Mais Sans Soleil, Les Enfantines et Les Chants et Danses de la Mort.
On vous connaît ici pour vos apparitions nombreuses à l'Opéra de Lausanne. On vous connaît dans d'autres répertoires beaucoup plus légers. Je connaissais pas cette noirceur dans votre voix. On va pouvoir en reparler. Je vous connaissais pas non plus en russe. Vous êtes russophone, Benoît Capte?
Je ne suis pas russophone. J'ai été très à bonne école, mais à rude école, donc avec Alexis Golovin, que je connais très bien de longue date. On a beaucoup travaillé depuis le printemps déjà là-dessus, aussi avec sa famille. Donc j'ai été drillé sur la prononciation, que j'apprends comme on apprendrait une langue étrangère avec des poèmes. C'est-à-dire, j'essaie quand même de comprendre évidemment ce que je chante, mais malheureusement, je ne le parle pas. Donc c'est un travail particulier.
Alexis Golovin, qui a été votre professeur de piano.
Tout à fait.
Et qui est votre pianiste ce soir pour ce concert. Voilà. Vous parliez de l'apprentissage du russe pour le chanter sur le plan phonologique. C'est compliqué? Parce qu'il y a des phonèmes que vous avez de la peine à discriminer, à distinguer. Enfin, est-ce que c'est une langue difficile à chanter pour un francophone?
Je dirais pas difficile à chanter, c'est une langue très agréable à chanter. On parle toujours de l'italien, le russe en fait partie aussi. Mais c'est vrai que pour un francophone, il y a les phonèmes célèbres, par exemple le L dur, ou bien le I dur, qu'il faut apprendre à faire correctement, disons en tout cas que ça ne dérange pas un russophone qui écoute cette musique. Oui.
Et puis il y a la question du climat poétique aussi.
Tout à fait.
Parce que quand vous chantez des Schubert, j'imagine que vous avez une manière d'être en phase avec votre texte peut-être plus directe, plus immédiate qu'avec une langue moins connue.
Ça, je ne sais pas. Il y a quelque chose de très... On dit toujours actuel, c'est pas que c'est actuel, mais il y a quelque chose qui nous prend, je pense, sincèrement et intimement aux tripes, quand là, dans la pièce qu'on vient d'entendre sur le combat, ou l'âme, enfin, qui nous parle pas comme si c'était un univers étranger du tout. Je pense.
Vous donnez ce concert donc avec Alexis Golovin, russe genevois, si on peut dire. Est-ce qu'en tant que russe, il détient des clés d'interprétation particulières, une tradition qu'on aurait moins ici?
Je pense qu'Alexis ne voudrait pas qu'on dise qu'il représente une tradition russe, parce qu'il a une manière très personnelle, dans son enseignement en particulier, d'essayer de faire de ne pas être... sous le joug comme ça d'une tradition. Mais bien sûr, comme il a vécu quand même une bonne partie de sa vie dans sa jeunesse en Russie, qu'il a travaillé avec des maîtres russes, il a cette musique en lui, oui.
Vous avez parlé de Golovin enseignant, c'est un des grands secteurs de son activité, la pédagogie. Est-ce qu'il est aussi pédagogue avec vous quand vous travaillez Moussorgski? Vous êtes sorti du rapport maître-élève, ou est-ce que c'est quelque chose qui est dessiné pour la vie?
Non, on est devenus des grands amis. Pour moi, c'est presque un second père, en fait, Alexis Golovin. Alors, je suis pas dans un rapport hiérarchique avec lui plus. Bien que ce rapport était très beau, c'est formidable d'être son élève, je dois dire. Mais on travaille vraiment à deux. Mais évidemment, puisque sur ce répertoire en russe, pour lui, c'est sa langue maternelle, il m'a beaucoup aidé. Et je lui dois beaucoup, là, dans la préparation de ce concert à nouveau.
Votre concert sera présenté à 19h par Mathilde Reichler-Imperiali, musicologue, metteur en scène, spécialiste de Moussorgski. Vous avez aussi travaillé le répertoire avec elle?
En fait, c'est une des premières personnes avec qui j'ai commencé à travailler la prononciation russe, effectivement. Avec ma première professeure de chant, Margalis Koutine, j'avais déjà commencé à faire une petite mélodie de Moussorgski, Les feuilles bruissent doucement, c'est une de ses toutes premières œuvres. Et Mathilde, qui est une amie d'enfance quasiment, étudiait déjà le russe à l'université à ce moment-là, c'était sa première année, je crois. Et donc, j'avais travaillé avec elle pour la prononciation, oui.
L'enregistrement qu'on a écouté, c'est un enregistrement du mois de juillet, vous m'avez dit, je crois?
25 juillet, on a déjà fait ce programme organisé un peu différemment dans le cadre du Puplinge Festival, classique festival de Puplinge, que le jeune pianiste qu'on a entendu tout récemment en finale du concours Clara Askill, François-Xavier Poisa, qui joue d'ailleurs la semaine prochaine à Genève, ça vaut la peine de l'entendre, organisait. Et donc on a donné ce concert effectivement le 25 juillet dernier. Oui.
Et c'était la première fois pour vous que vous abordiez Moussorgski?
Disons, de mes études, non. Et non, j'avais eu l'occasion de travailler et même d'enregistrer ces chants et danses de la mort avec Todd Campbell, chef de chant donc au Grand Théâtre, qui est un des mes partenaires, amis partenaires de longue date. On s'est connus au conservatoire, où il est maintenant chef de département aussi. Et donc, j'avais eu la chance d'avoir un prix du Cercle Vaudois des Amis de l'OSR pour enregistrer un disque à la fin de mes études. Et une des œuvres qu'on a enregistrées, c'était les chants et danses. Donc, parmi ce qu'on fait ce soir, Sans Soleil et les Enfantines sont tout nouveaux pour moi. Par contre, les chants et danses, ça fait déjà un moment que je le travaillais.
Parce que je me suis dit, en voyant votre programme, que c'est un programme vraiment impressionnant, que s'aborder comme ça, aborder trois cycles pareils, c'était quand même une entreprise majeure.
Alors pour moi, oui, mais il faut quand même aussi remarquer qu'Alexis Golovin, qui les accompagne, et l'accompagnement de ces pièces est relativement, voire extrêmement difficile, ne serait-ce que au niveau de la virtuosité, mais lui, en plus, il joue pendant une demi-heure les tableaux d'une exposition pour piano solo, donc pour lui, le concert est encore plus redoutable.
Encore plus redoutable et plus lourd. Les chants et danses de la mort, pièce très sombre et très célèbre. Sans soleil, pièce fort sombre également, beaucoup moins célèbre. Les enfantines.
On pourrait, c'est vrai, au niveau de la célébrité, du côté connu des pièces, on pourrait les placer entre les deux. Ça fait partie, en tout cas en Russie, d'un répertoire qui est un peu plus souvent fait. À l'étranger, je pense qu'on les connaît très peu. Et c'est très intéressant de pouvoir mettre en regard ces trois cycles, également avec les tableaux d'une exposition, parce qu'on voit vraiment, je pense, tous les aspects du génie de Moussorgsky, indépendamment de l'orchestration, puisqu'on n'en aura pas d'orchestre ce soir, mais on voit vraiment ses différentes sources d'inspiration, son imagination qui est à la fois extrêmement variée et fertile, mais très très cohérente. On reconnaît des thèmes de Boris dans les tableaux, ou dans le Sans Soleil, une vocalité assez typique. Dans les enfantines qui ne ressemblent vraiment à rien d'autre, on a quelque chose de particulièrement original et génial. D'ailleurs, si vous le permettez, je vous lirai volontiers un extrait de Lettres de Moussorgsky.
Avec grand plaisir, vous êtes venu avec plein de choses dans votre, dans votre escarcelle. Vous avez pris des enregistrements avec vous, vous avez pris un livre, La Correspondance de Moussorgsky, que vous avez prévu de partager un instant avec nous. Qu'est-ce qui est mieux, qu'on écoute d'abord Nina Dorliac chanter un extrait des enfantines, ou vous préférez nous donner d'abord lecture?
Peut-être qu'on peut commencer par écouter Nina Dorliac.
Alors écoutons Nina Dorliac.
Торопиться надо.
Pour rester dans l'ambiance de ces enfantines, il faudra me priver de dessert et me mettre au coin, Benoît Capte, parce que j'ai dit qu'on allait écouter Nina Dorliac. C'est juste, j'ai pas dit qui était au piano.
Ça permet de le dire maintenant, c'est son ami Sviatoslav Richter qui l'accompagne au piano. On remarque, je vous disais que c'était très difficile à accompagner. Alors ça, c'est une pièce aussi de bravoure dans la délicatesse, mais c'est très redoutable à jouer bien.
Vous avez choisi cette pièce pour la mettre un petit peu en regard avec le premier extrait qu'on a écouté. C'est aussi une cavalcade, mais du cheval de guerre, on va au cheval de bois.
Exactement. J'étais heureux dans ce récital de pouvoir mettre en regard les enfantines avec les chants et danses, parce qu'on a deux éclairages presque opposés, en tout cas, qui créent un contraste saisissant, puissant, pour certaines pièces, notamment celle-ci. On voit le petit garçon qui est sur son cheval, et puis peut-être avec ses ta-ta-ta-ta, qui joue peut-être avec des armes à feu. Et puis, tout d'un coup, au début de l'émission, on entendait donc ce dernier des chants et danses, qui est l'ardeur du combat, le combat fait rage avec les chevaux qui se précipitent les uns sur les autres et la mort qui arrive sur les gens qui gémissent à la fin.
Il y a une autre version historique importante, célèbre, considérable de ces enfantines, c'est celle de Boris Christophe. Mmh. Lui, il a une manière d'aborder ce répertoire avec une sorte d'ironie moqueuse, de drôlerie. On est plus en train de rire, de jouer et de se moquer que de s'attendrir de l'enfance. Comment est-ce que vous voyez, vous, ce recueil dans cette perspective?
Bon, moi, j'adore la version de Boris Christophe. Je dois dire, je sais que certaines personnes la trouvent exagérée ou affectée. Je me rends pas compte, n'étant pas russophone, peut-être qu'il y a des aspects qui ne me dérangent pas, mais au niveau de sa vocalité, c'est tout à fait fascinant ce qu'il arrive à faire, parce qu'on connaît son immense voix dans Boris, par exemple. Là, on entendra après peut-être un petit bout de Sans Soleil, où on entend aussi ce creux de voix tellement typique. Et il arrive à avoir une demi-teinte de voix, un Messa di voce qui est stupéfiant, mais toujours au service de l'émotion. C'est pas du tout de la prouesse virtuose. Alors, je suis très fan de ce qu'il fait là-dedans, mais c'est pas toujours un avis partagé.
Votre propre allons-y avec cette lettre de Moussorski, donc où il était question de ces enfantines que lui considérait pas du tout comme une œuvre mineure.
Au contraire, manifestement, il la considérait comme vraiment étant au sommet de sa production dans la qualité géniale, on pourrait dire. Et alors, on avait fait courir le bruit que on avait présenté les enfantines à Liszt, qui était une sorte d'éminence musicale en Europe. Manifestement, c'est faux, mais on l'a dit à Moussorski, on pense pour lui faire plaisir. Alors, je peux vous dire quelques lignes, on voit comment il réagit à cette nouvelle que Liszt aurait entendu ses enfantines. C'est très intéressant sur ce qu'il dit de la parole, d'ailleurs.
Parole de Moussorski, donc.
Voilà, le frère de Bessel, lequel Bessel s'est rendu plus d'une fois chez Liszt à Weimar, a fait arrêter son fiacre exprès pour courir m'informer que Liszt était enthousiasmé par la nouvelle musique russe. Il aurait déclaré, entre autres, à Bessel, que les enfantines l'avaient tellement ému qu'il avait pris son auteur en affection et qu'il souhaitait lui dédier une bluette. Si c'est vrai, et s'il ne s'agit pas d'un engouement exagéré, Liszt me stupéfie par l'inspiration de son talent. C'est incroyable. Que je sois ou non un niais en musique, il me semble en tout cas que je ne l'ai pas été dans les enfantines, car ma compréhension des enfants et le regard que j'ai porté sur eux en les considérant comme des êtres humains avec leur petit univers à eux, et non comme des poupées avec lesquelles on joue, devrait empêcher de présenter l'auteur sous l'angle de la niaiserie. Tout cela est peut-être vrai, mais je n'aurais jamais pensé que Liszt, qui, à quelques exceptions près, ne choisit que des sujets colossaux, pût sérieusement comprendre et apprécier les enfantines, ni surtout s'enthousiasmer pour elles. Car au bout du compte, tous ces enfants-là viennent de Russie et sont dépeints avec une couleur locale très accusée.
Alors, parole ici donc de Moussorski à propos de cette admiration présumée de Liszt pour ses enfantines. C'est vrai quand même qu'on est dans un répertoire, même si le sujet n'est pas colossal, comme il dit, dans un répertoire incroyablement éloigné de ces chants et danses de la mort. Ouais. Vous devez, dans un même récital, passer d'une noirceur abyssale à quand même une légèreté, une drôlerie, une spontanéité, une légèreté.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, le fait de mettre les chants et danses de la mort en fin de récital pour des raisons vocales est aussi nécessaire. Cela dit, c'est agréable de pouvoir alterner beaucoup on pourrait dire la lourdeur de la vocalité, parce qu'effectivement, les enfantines sont plutôt virtuoses pour moi au niveau du texte et de l'imagination que proprement parler au niveau vocal.
Vous avez hésité à les mettre en fin de récital pour des raisons, disons, pour finir sur quelque chose d'un peu plus léger, gai, comme on le fait quand même souvent volontiers?
Oui, on a hésité. C'est vrai que les chants et danses sont tellement spectaculaires qu'en même temps ils ont aussi leur place en fin de récital.
Vous parliez de vocalité, légèreté de la vocalité, intensité de la vocalité, noirceur. Qu'est-ce que c'est la vocalité russe pour vous?
Oh. Vaste question. En tout cas, je dois me positionner, si vous me questionnez, par rapport à une chose, c'est que souvent les voix russes, là on parle de Boris Christophe qu'on va entendre tout à l'heure, ont ce qu'on appelle un creux de voix spectaculaire, ou en tout cas particulièrement marqué. Un creux de voix, c'est-à-dire une intensité dans le timbre, un timbre souvent d'une certaine noirceur, en tout cas d'une densité. Et donc avec une voix comme la mienne, qui certains disent elle est plutôt française, ou en tout cas ce qui est clair c'est que j'ai pas une voix typiquement russe, il ne faut pas chercher à forcer la voix ou à pousser pour obtenir cette densité.
Et alors qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est dans le style qu'on va chercher le ressort de la russitude de ce répertoire?
Alors là, en l'occurrence, on entendait Moussorgski parler de la parole et des enfantines de l'originalité. Comme il y a un tel travail sur la prosodie de la langue et sur les intentions, c'est, on pourrait dire, moins difficile de tomber dans l'écueil de pousser, parce qu'il faut simplement travailler le texte pour que ça devienne naturel dans la déclamation chantée.
En tout cas, il y avait une noirceur dans le premier enregistrement qu'on a écouté avec vous, que je ne vous connaissais pas, donc je me suis dit que c'était quand même un répertoire qui entraînait la voix sur des pistes particulières et qui l'amenait dans des lieux... Peut-être même inconnu de vous, si ça se trouve.
Ça fait du bien, oui, c'est vrai, alors tout à fait.
Vous êtes d'ailleurs récitaliste et chanteur d'opéra, ça c'est aussi deux volets de votre activité qui font alterner de manière quand même un petit peu différente de chanter.
La manière de chanter est la même, mais c'est vrai que ce qui est spécifique à l'opéra, probablement, c'est une technique de projection pour que, comme on dit, pour pouvoir passer l'orchestre, et puis souvent dans des salles qui, en principe, sont quand même plus grandes que des salles où on donne du récital. Donc, on va dire, le spectre de nuances n'est probablement pas tout à fait le même à l'opéra ou au récital. On parle souvent du piano, notamment. C'est vrai qu'on demande souvent de chanter doucement. Quand on est sur scène et qu'il y a l'orchestre, le piano reste un son très, très soutenu et quand même puissant.
Il y a des chanteurs très célèbres qui ont eu, paraît-il, un passage très difficile de l'opéra au Lied. On pense à Fritz Wunderlich, par exemple, qui, paraît-il, dans ses premiers récitals de Lied, était extrêmement déçu, révolté de ce qu'il venait de faire et qui disait qu'il avait dû reconquérir une toute autre façon de chanter. Vous ressentez pas comme ça d'abîme entre l'opéra et le concert?
Je ne connais pas cette histoire de Wunderlich, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'en plus, pour connaître certains enregistrements de lui, on est frappé par l'homogénéité de son chant, qu'il fasse du concert, du récital ou de l'opéra. Et on est assez fan, en principe d'ailleurs, de ce qu'il fait. Mais c'est très intéressant. Effectivement, le danger peut-être au récital, c'est de vouloir trop mimer, de vouloir trop exagérer les impressions, de moins jouer sincèrement, en fait, de chanter avec sa voix naturelle. Et du coup, parfois, sûrement de détimbrer trop, et de quitter, en fait, la sincérité du timbre. Ouais.
Sincérité, justement, comment vous faites par rapport à des pièces aussi terribles que Les Chants et Danses ou que Sans Soleil? Est-ce que vous vous immergez dans leur noirceur, ou est-ce que vous devez garder une distance par rapport à elles quand vous les interprétez?
Alors, je donne une réponse peut-être pas, je sais pas, politiquement, artistiquement correcte, mais je me concentre en fait vraiment sur la production du texte et sur comme il résonne pour moi au moment où je le dis.
Concert donc avec ces trois recueils, ces trois cycles de Moussorgski ce soir et les tableaux d'une exposition, donc Sans Soleil, Chant et Danse de la Mort, Enfantine et les tableaux d'une exposition avec vous Benoît Capte et Alexis Golovin. Concert à l'enseigne de l'association Lied et Mélodie. Racontez-nous un peu cette aventure de Lied et Mélodie puisque vous y êtes quand même plus ou moins, enfin plutôt plus que moins.
Oui, volontiers, bien sûr. Effectivement, c'est une toute jeune, toute nouvelle association que nous avons fondée cette année avec un petit groupe, un petit comité d'amis qui nous sommes tous concernés par le récital, la musique de chambre pour chant et piano. Donc c'est le but avoué de l'association, c'est de promouvoir ce répertoire qui effectivement est rarement donné, en tout cas certains aspects du répertoire, comme je vous le disais tout à l'heure, d'essayer de faire se côtoyer dans les concerts des pièces célèbres, là les tableaux ce soir d'une exposition par exemple, avec des pièces très inconnues comme Sans Soleil. Quand j'ai vu que ce groupe, cette équipe était rassemblée autour de ce projet, qu'on avait des buts communs, pour assumer la responsabilité artistique, parce que c'est donc la charge que j'ai dans cette association, j'ai attendu une autre confirmation. J'ai voulu savoir si quelques artistes de mes amis ou des connaissances que j'avais étaient derrière nous pour ça. Et donc Alexis, évidemment, faisait partie. Golovin, le fait qu'il accepte de venir jouer les tableaux ce soir et m'accompagner là-dedans, c'est évidemment très précieux. Eric Schneider, donc de Berlin, un pianiste aussi reconnu.
Accompagnateur de grands chanteurs, de Gurney notamment.
Voilà. Exactement. Alors il viendra, notre prochain concert sera une Winterreise au mois de mars avec lui, il a accepté. Et également Philippe Moll, avec qui j'ai étudié à Leipzig, qui habite aussi Berlin, qui est un grand accompagnateur. Quand j'ai su qu'ils étaient partie prenante dans le projet, je me suis lancé.
Vous trouvez que la mélodie et le lead ont trop peu de place sur la scène classique genevoise ?
Oh, c'est difficile à dire. Effectivement, il y a beaucoup de récitals organisés. D'ailleurs, cette année, il y a une grande saison à Genève au Grand Théâtre, plus que d'habitude, avec des grands noms qui viennent. On y a entendu, j'écoute régulièrement ces récitals. Alors, il y a quand même du grand répertoire qui est fait. J'avais entendu les histoires naturelles avec Kinleyside, par exemple, récemment. Ça se fait rarement. C'était remarquable avec Malcolm Martin au piano. On a entendu l'an dernier des choses très variées, effectivement. Donc, c'est pas que c'est jamais fait, mais c'est vrai que par rapport à l'étendue du répertoire, on a tendance à faire souvent un peu toujours les mêmes choses, alors qu'il y a des perles qui ne demandent qu'à être pas exhumées, parce qu'elles sont quand même connues, mais qui ne demandent qu'à être produite, puisqu'on connaît la musique que quand elle est actualisée par l'interprétation.
La preuve ce soir, donc avec Sans Soleil de Moussorgski, il y aura aussi les Enfantines, les tableaux d'une exposition et les chants et danses de la mort. Avec vous, Benoît Capt et Alexis Golovin au piano. Merci beaucoup d'avoir passé nous voir dans Magma.
Merci à vous.
On va se quitter avec Boris Christophe, légendaire justement, dans un extrait de ce rare Sans Soleil.
Твой взгляд не сказал ничего, но чудно и страшно мне стало, когда уловил я его, то было одно лишь мгновение, но верь мне, я в нем перенес все. Прошлой любви наслаждение всю горечь забвенья и слез.
Борис Христоф, extrêmement impressionnant dans les mélodies de Moussorgski où on l'entend dans des vocalités très très changeantes, une sincérité étonnante. Et c'est avec lui qu'on concluait donc notre rencontre avec Benoît Capt. Avec vous, Agnès Léveillé, tout à fait autre chose. Vous avez pêché pour nous la dernière parution de l'ensemble Contraste, un disque intitulé Miroir, dans lequel diverses époques se reflètent et se répondent. Je crois que vous avez commencé par nous apporter un son.
On va écouter ça tout de suite et puis après on en parlera. Voilà le Herz und Mund und Tat und Leben de Bach. Qu'en pensez-vous, Francesco ? Il me semble que vous êtes sans voix.
Agnès, que dirais-je ? On dirait qu'on écoute le répondeur téléphonique d'une compagnie d'assurance. Vous écoutez ça, vous savez qu'il ne peut absolument rien vous arriver, n'est-ce pas ? Mais de quoi s'agit-il donc, Agnès ?
Eh bien, comme son titre l'indique, Miroir est un projet qui conjugue le passé au présent, le classique au jazz. Un disque et un titre dans l'air du temps qui n'aurait absolument pas attiré mon attention si je n'avais pas autant entendu parler de l'ensemble Contraste, donc qui joue sur le disque. C'est un ensemble qui a été encensé, multidiapasonné et abondamment coup de cœuré par la critique française depuis des années. Un quatuor d'exception qui réussit à conjuguer modernité et tradition, classicisme et exotisme, nous dit Judith Chen dans Télérama à propos d'un autre album de Contraste. Et donc c'est un ensemble à géométrie variable qui a été fondé en 2000 par de jeunes musiciens virtuoses français qui se sont donné pour but de proposer des programmes fondés sur les rencontres entre les musiques classiques et populaires. À son actif, l'ensemble compte 7 albums. Alors c'est très varié, du tango, des reprises d'air de comédies musicales, des disques consacrés à Fauré ou Hounslow, des transcriptions de Bach et de Schumann et même de la musique contemporaine. Bon, encore que tout dépend de ce qu'on entend par contemporain. Ils ont enregistré un album avec des œuvres de Carole Beffa.
Anya, est-ce que vous êtes un tout petit peu sarcastique ou est-ce que c'est moi qui projette ?
Non, non, je suis absolument pas sarcastique, mais un tout petit peu lassée par toutes ces formations qui se pavanent en vantant leur programmation originale ou prétendument originale et sortant des rails traditionnels, alors que dans les faits, il n'y a absolument rien de révolutionnaire à prendre un morceau classique et à le réarranger sagement avec des consonances vaguement jazzy. Exemple avec ce Lacrimosa du Requiem, customisé en tango.
Fin mélomane d'entre vous ont reconnu le Lacrimosa du Requiem. Ici dans le dernier album enregistré par l'ensemble Contraste avec Arnaud Torrette à l'alto, Jean Fargeau au Fender Rhodes et au piano, Raphaël Imbert au saxophone et Carole Beffa au piano. Alors cette fois-ci, Anya, avant que vous ne me mettiez mal à l'aise en me demandant ce que j'en pense, c'est moi qui dégaine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Alors, juste un détail, dans le livret d'accompagnement du CD, les musiciens expliquent qu'ils ont transposé ce Lacrimosa en bossa nova. Alors bon, moi je pense qu'ils n'ont pas dû en entendre beaucoup des bossa pour faire ce genre de confusion.
Oui, mais là vous bottez en touche, vous bottez en touche, Anya.
Mais enfin bon, pour revenir au morceau, il ne sonne pas trop mal, je trouve, mais tout est tellement convenu, le trait est forcé. Il ne manquerait plus qu'un couple de danseurs se lançant des regards noirs, mais enfin ça, Contraste l'a déjà fait avec son projet Tango. Mais sinon, c'est agréable et surtout très propre. Alors rien à voir avec les transpositions d'œuvres de Mahler par Hurricane, par exemple, ou des improvisations sur des sonates de Scarlatti de Pierre Annunzi. Là, les musiciens de Contraste improvisent peut-être sur certains morceaux. Mais la sauce ne prend pas et on est vraiment, je trouve, dans une demi-mesure. Alors oui, bon d'accord, on fait de l'impro, mais surtout pas trop. Et alors surtout, on reste dans des sonorités agréablement conformistes. Et d'ailleurs, quand les musiciens décrivent ce projet comme un disque de jazz qui est en hommage à quelques chefs-d'œuvre de la musique classique, ça me fait doucement sourire, car en fait, c'est un disque complètement classique. Il y a un saxophoniste de jazz, mais bon, c'est pas du jazz. Le jazz est légitimé ici par un saxophone, un Fender Rhodes, et puis quoi, 2-3 impros peut-être.
Est-ce que tout est du même tonneau dans cet album ? Qui sont les autres compositeurs dont se saisit l'ensemble Contraste ?
Les autres massacres.
Alors, on trouve ici des œuvres de Barre, de Purcell, la célèbre musicienne de Satie, ou encore des compositions des membres de l'ensemble. De Joan Fargeau, Raphaël Imbert et Carole Beffa.
Carole Beffa, il faut nous en dire deux mots, c'est un personnage qui brille beaucoup, je crois.
Oui, c'est un jeune compositeur diplômé de toutes les meilleures écoles musicales de Paris. Il est maître de conférences à l'École normale supérieure et ancien titulaire de la chaire de création artistique au Collège de France. Et en passant, il cumule aussi des licences en histoire, en philosophie, en littérature anglaise, un doctorat en musicologie. Enfin bref, c'est quelqu'un d'assez brillant qui a été élu il y a quelques mois compositeur de l'année aux Victoires de la musique. Mais Carole Beffa a été aussi pris il y a quelques mois dans une polémique. Après avoir invité pour une conférence au Collège de France le pianiste et compositeur Jérôme Ducrot, alors Jérôme Ducrot qui explique par A plus B pourquoi la musique atonale, depuis le début du XXe siècle, n'est pas musique. Alors pour vous en faire une idée, je vous renvoie à YouTube, c'est simplement stupéfiant de mauvaise foi. On croirait vraiment réentendre des discours des nazis à propos de la musique dégénérée. Et donc, voilà, sur ce projet de l'ensemble Contraste, on retrouve Carole Beffa, qui a un bond d'ailleurs complètement dans le sens de Ducrot, en trouvant aussi que la musique contemporaine est bien trop contemporaine et dissonante. Alors là, avec cet album, au moins, c'est clair, on ne risque pas de détonner. Et d'ailleurs, il y a deux pièces de jeunesse de Beffa, mais bon, je n'ai pas très envie de les passer maintenant.
Ah bon ?
Je vous propose de terminer peut-être par un autre tube, pour avoir une idée des autres pièces de cet enregistrement. J'ai choisi le célèbre Lamento de Didon, tiré de l'opéra Didon est né de Purcell.
Merci Ania pour nous avoir apporté ces miroirs de l'ensemble Contraste, un enregistrement que vous ne recommandez pas.
Sauf aux compagnies d'assurance.
Merci beaucoup Ania Léveillé. Paul André Demière, vous êtes assuré contre tout ?
Mais écoutez, quand j'entends ça, je crois pas. En tout cas, ni contre la terreur, ni contre le coup de cœur, parce que, et le coup de sens surtout, parce que je vous avoue que là, je trouve ça quand même un peu curieux. Voilà.
Moi qui préfère de loin la radio à la télévision, je dois dire qu'en vous voyant pendant la chronique d'Ania, j'ai quand même regretté que nos auditeurs n'aient pas un petit cadrage sur votre expression éloquente.
Ben vous savez, quand j'entends Lacrimosa du Requiem de Mozart traité de cette manière-là, au fond de moi, je me dis, pauvre Mozart, est-ce qu'il méritait ça ?
Alors vous promettez de nous ramener aux choses sérieuses, n'est-ce pas ?
Oui, absolument.
Vous êtes revenu de Montreux avec des impressions fortes, notables.
Écoutez, oui, notables, c'est-à-dire, vous savez, depuis des années, l'orchestre en résidence est le Royal Philharmonic Orchestra de Londres. Et puis son chef actuellement, son directeur artistique et son chef qui est Charles Dutoit. Alors, je crois qu'il faut quand même rendre hommage quand on entend des gens comme ça. C'est-à-dire d'abord au niveau de la diversité des programmes, au niveau aussi de ce qu'ils dégagent. C'est-à-dire, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui fait le sacre du printemps, aujourd'hui c'est monnaie courante. Mais ce que j'ai entendu l'autre jour me laisse pantois. C'est-à-dire, je me dis, il y a encore quelqu'un qui a ça. Et surtout qui est en mesure de mettre en évidence des choses que l'on n'a peut-être jamais entendues précédemment. Je pense notamment au tout début, ou tout à coup, dans les solides instruments, il fait sortir des choses. Vous savez, ça, c'est vraiment le grand monsieur, j'entends, qui pratique ce répertoire depuis longtemps, et le résultat est là aussi. Et puis, ça me touche d'autant plus, parce que c'est quelqu'un de chez nous, alors c'est d'autant mieux, non ?
Alors, vous proposez, je crois, de revenir un peu sur l'impressionnante carrière de Charles Dutoit.
Oui, absolument. Bon, d'abord, il faut dire qu'il est né à Lausanne, hein, c'est quand même important de le dire, le 7 octobre 1936, ce qui veut dire que bientôt, il aura 77 ans. On ose dire l'âge des hommes, donc allons-y. Et puis ensuite de ça, c'est le conservatoire de Lausanne. Il étudie l'alto, il étudie la théorie, et puis il fait un peu de direction d'orchestre avec Hans Haug. Et puis en 56, il arrive au conservatoire à Genève. Et là, il continue à travailler l'alto, l'orchestration avec André-François Marescotti et la direction d'orchestre. Et puis surtout, alors, ce qui me touche, c'est que c'est quelqu'un tout de suite qui est allé voir ailleurs. C'est-à-dire chercher des cours chez Alceo Galliera à Sienne. Et puis aller au festival de Tangelou, demander à Ernest Ansermet une lettre pour pouvoir aller là-bas et travailler avec Charles Munch. Bon, ça explique tout. Et puis en 1959, il devient directeur de l'orchestre de chambre de Lausanne. Et rendez-vous compte, il a une soliste. Martha Argerich, sa future femme, qui joue le concerto en sol de Ravel, déjà à ce moment-là, donc vous vous rendez compte. Et puis ça lui permet de diriger l'orchestre de la Suisse romande, l'orchestre de Radio Zurich, d'être le chef de chœur de l'université de Lausanne. Et puis en 1962, un premier concert à Berne. Et alors on va s'arrêter là-dessus parce que en 64, vous vous rendez compte, il est bien jeune, le Sacre du printemps à Berne. Ça provoque un tel effet qu'il est invité par Herbert von Karajan pour aller à Vienne, qu'il deviendra deuxième chef d'orchestre à Berne et à Zurich, et on va le faire venir à la Staatsoper de Vienne. Pourquoi ? Pour diriger des ballets. Pourquoi ? Parce que Léonide Massine est en train de mettre en scène le Tricorne, et puis Rudolf Nureyev fait une production du Lac des Cygnes avec Margot Fonteyn, c'est Charles Dutoit qui dirige ça. Aujourd'hui, c'est des choses... Nous, on a tellement l'habitude de parler Charles Dutoit, on oublie un peu ces détails-là. Mais écoutez le Sacre du printemps. Alors, je vous propose tout simplement la fin de la première partie. Nous, c'est l'orchestre de Montréal, dont il a été 25 ans titulaire, on parlera de ça tout à l'heure. Écoutez ce qui se passe là-dedans. Écoutez la dynamique qu'il y a là et la précision aussi.
Thank you.
Benoît Capt et moi-même partageons pendant l'entrée de demi-heure votre admiration, votre stupéfaction presque devant une direction pareille, un son pareil, la précision, l'énergie rythmique, la manière dont ça avance, que vous avez souligné à plusieurs reprises pendant qu'on écoutait. C'est donc ce sacre du printemps qui a fait inviter du toit par Karajan
vous
à Vienne, disiez-vous, et qu'il a joué l'autre jour. C'était comme ça?
Oui, c'était la même chose. C'est-à-dire, là, la danse de la terre à la fin, c'est vraiment tellurique, c'est-à-dire ça vous emporte, vous êtes là, vous tenez comme ça en vous disant mais c'est presque pas possible. Vous rendez compte la précision que ça suppose au niveau de l'orchestre, parce que vous savez l'orchestre que vous avez devant vous. Ensuite de ça, vous pouvez en mettre à côté au kilomètre, et quand vous avez un résultat pareil, bah vous savez, vous rendez compte le chef. Donc je trouve que c'est rare et je trouve que c'est à souligner. Alors ça, c'était donc l'Orchestre de Montréal. Nous sommes en mai 84 et maintenant, quelques 20 ans après, eh bien, il a toujours la même force. Donc c'est extraordinaire. C'est ce qui me touche surtout.
Comment s'est poursuivi la carrière de Dutoit?
Alors écoutez, en 66, il a été chef associé à la Tonale. Il vient déjà à ce moment-là diriger le Royal Philharmonic à Londres, donc, et il dirige tous les autres orchestres londoniens cette année-là. Et puis il accepte dès 67 jusqu'à 78 la direction musicale de l'Orchestre symphonique de Berne. Il succède à Paul Kletsky. Il épouse à ce moment-là Martha Argerich en 69, qui deviendra évidemment sa soliste, mon Dieu, ô combien attitrée. Et puis, dès ce moment-là, bon, vous savez que c'est malheureusement un mariage qui durera que quelques années, mais enfin, j'entends, ce sont deux monstres qui vivent ensemble, en tout cas un monstre du piano et un monstre de l'orchestre. Et puis, ensuite de cela, eh bien, il va prendre divers orchestres, c'est-à-dire l'Orchestre symphonique de Mexico en 74, l'Orchestre de Göteborg. Et en 77, dès ce moment-là, pendant 25 ans, il va diriger l'Orchestre de Montréal. Donc, ça veut dire que c'est vraiment son orchestre avec lequel il a fait la plupart de ses enregistrements. Bon, là aussi, c'est quelqu'un qui a travaillé sur le long terme. Bon, malheureusement, la fin s'est passée un tout petit peu en dents de scie. Bon, ça arrive de temps à autre. Mais c'est avec cet orchestre, par exemple, qu'il va aller en tournée en Australie. C'est avec cet orchestre qu'il va participer à New York au festival Mostly Mozart en 1979. Et puis en 82, c'est Carnegie Hall. Il dirige à l'orchestre de Boston, l'orchestre de Chicago, l'orchestre de Cleveland, l'orchestre de Philadelphie. On l'invite à Tokyo, donc ça montre un peu la carrière. C'est quelqu'un qui a peu pratiqué l'opéra, ça il faut le noter. Et en 1983, il acceptera en juin de diriger Faust à Covent Garden, parce que Faust c'est Alfredo Kraus, excusez du peu. Et puis en 87, il acceptera de diriger quelques représentations au Met, notamment les Contes d'Hoffmann. Et puis, entre 91 et 2001, il prendra la direction musicale de l'Orchestre National de France. Et puis, on le verra entre 98 et 2003 encore directeur de l'Orchestre Symphonique NHK. Puis maintenant, donc, il prend la direction du Royal Philharmonic à Londres. Il est le chef artistique, il est le chef musical. Et donc, c'est l'orchestre qu'il prend le plus régulièrement en main. C'est quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Donc, il est sûr qu'il prend le temps de faire les choses. Et tant mieux pour lui, et tant mieux pour nous aussi. Et je dois dire, ce qui m'a touché à Montreux, c'est justement aussi la diversité de ses programmes. Parce que vous savez, faire venir Martha Argerich, qui joue le premier concerto de Beethoven, bon, ben évidemment, c'est une grande artiste, elle n'a plus rien à prouver, elle a la même dynamique que son ex-mari. Faut bien reconnaître, vous savez, des traits qui sont complètement habités tout le temps, et ça, c'est génial. Mais d'avoir, en seconde partie, d'oser faire le château de Barbe Bleue de Béla Bartok sous forme de concert, c'est quand même pas très évident. Ce que j'éplore à Montreux, c'est qu'on n'ait pas eu la bonne idée de donner un texte. Quand vous avez deux personnages, Judith et Barbe Bleue, on peut donner trois feuilles de photocopie au public pour qu'ils se rendent compte un peu de ce qui se passe. Alors bien sûr, c'est une musique géniale. Bon, moi je suis là-dedans à longueur de journée, je connais ça, mais j'entends. Vous savez, il y a des gens qui sont complètement largués quand ils n'ont pas un support par rapport à ça. Ça me paraît dommage. Mais autrement, à côté de cela, vous savez, faire un programme, des choses très très diverses, on a entendu par exemple le dernier programme, c'est de la musique française. Alors il fait le prélude à l'après-midi d'un faune, il fait venir Renaud Capuçon pour jouer la symphonie espagnole, et en seconde partie il fait à la suite La Mer et Boléro. Mais vous savez, il faut pouvoir quand même, j'entends, vous rendez compte de la concentration que ça suppose, et aussi justement cette dynamique qui vous emporte tout le temps. Et moi c'est ça que je trouve absolument génial, c'est qu'un chef à 77 ans ait une telle maîtrise. Ces dernières années, on l'a entendu faire un répertoire très très divers, par exemple symphonie de Shostakovich ou des choses comme ça que l'on n'entend pas forcément fréquemment avec un orchestre, notamment un orchestre anglais. Mais c'est vous dire, justement, moi ce que j'admire, c'est cette diversité de répertoire, et puis l'homme aujourd'hui qui ne choisit plus que les choses qu'il doit faire. Au fond, il sait très bien ce qui lui convient, puis il a bien raison.
Il est allé aussi dans le 18e, il a aussi, vous parliez de sa présence à Mosley Mozart, est-ce qu'il a aussi dirigé Haydn Mozart?
Alors, il a dirigé Haydn Mozart, surtout en début de carrière, par exemple ici à la radio, on a beaucoup d'enregistrements avec lui quand il était très jeune, mais bon, c'est quand même pas directement son répertoire, c'est quand même un chef associé en grande partie à la musique du 20e siècle. Bon, le 19e aussi, s'il fait la Symphonie Fantastique ou s'il fait Scheherazade de Rimsky-Korsakov, là aussi vous entendez des choses que vous n'entendrez jamais autrement. Mais enfin, donc voilà. Alors, chapeau à lui.
Et puis avec donc aussi un talent dans le répertoire français.
Vous oui, disiez, magnifique. Alors c'est un chef, vous savez, ça me rappelle, on dirait qu'il a pris la succession d'Ernest Ansermet, parce qu'il a le même type de répertoire. Il sait mettre en lumière aussi ses couleurs qu'il y a dans l'orchestre, surtout dans la musique du 19e, mais dans le 20e aussi. Si on va écouter maintenant La Mer, on va écouter Dialogue du vent et de la mer, tout au moins une petite partie. Mais vous verrez, là aussi, le sens des couleurs, ces choses absolument imperceptibles, et tout de même la précision derrière ces traits.
Merci Paul-André Demière. La mer dans sa redoutable puissance sous la baguette de Charles Dutoit que nous présentait aussi aujourd'hui Paul-André Demière, tout bouleversé des concerts entendus à Montreux et on le comprend. Merci beaucoup à Sacha Unger pour avoir assuré aujourd'hui la réalisation de Magma. Merci à Cécile Claire sans qui rien ne se ferait. Et c'est Karine Vasarino qui vous présente les infos.